bonjour à tous. C'était exaltant pendant ce début de culte d'entendre la chaleur de nos chants, la ferveur des prières, et on était vraiment transportés, je crois, dans la présence du Seigneur par tout cela, vécu ensemble en communauté. Je vous propose maintenant de porter notre attention sur quelques chapitres introductifs du livre du Deutéronome. Je ne les lirai pas tous parce que c'est 5 chapitres, ça occuperait bien du temps. Et je voudrais simplement, la référence va s'afficher, je voudrais simplement replacer ces quelques chapitres, cette introduction au livre du Deutéronome dans son contexte. Vous le connaissez bien, c'est des choses simples, je rappelle. Moïse a conduit le peuple d'Israël hors de l'esclavage d'Égypte, où il s'est considérablement multiplié en 400 ans. On estime que ce sont à peu près 2 millions de personnes, enfants, hommes, femmes, qui sont sortis d'Égypte et qui, en chemin vers Canaan, ont fait une halte au pied du mont Sinaï, où la loi a été donnée une première fois par Dieu à son peuple, et où Dieu a noué une alliance avec son peuple. Mais la désobéissance du peuple, le manque de confiance, le manque de fidélité, ont valu à ce peuple 40 ans d'errance dans le désert, jusqu'à ce qu'une nouvelle génération qui n'avait pas connu ces défaillances spirituelles émerge au sein du peuple. Et nous sommes ici aux portes de Canaan. Le peuple va conquérir ce pays et Moïse convoque le peuple et prononce un long discours. Deutéronome, ça veut dire deuxième loi. C'est simplement une répétition de la loi reçue au Sinaï que Moïse va faire dans une longue prédication. Je vais être un peu moins long, cette prédication, elle occupe 34 même chapitres de ce livre de Deutéronome. Et à l'issue de cette prédication, Moïse va la mettre par écrit, cette prédication, pour qu'elle nous soit transmise au sein de cet ensemble de livres que Moïse a écrit, le Pentateuque. Voilà où nous en sommes. Les chapitres 4 à 8, desquels je tirerai un certain nombre, j'en lirai une partie, je tirerai un certain nombre de textes, constituent une introduction à ce rappel de la loi. Une introduction. Voilà pour le contexte. En quoi cela nous parle-t-il aujourd'hui? Comme ce peuple, nous voulons que notre Église, et particulièrement en ce début d'année, soit une communauté en marche, qui ne soit pas statique, qui se trouve aux portes de nouveaux projets, de nouvelles conquêtes, de nouveaux défis. Dans la Bible, la sortie d'Égypte est souvent assimilée, est une image forte au passage que, par sa mort au calvaire, le Seigneur a permise du règne du péché au règne de la liberté, au règne de l'Esprit de Christ dans nos vies. L'étape suivante, la conquête de Canaan, est une image forte aussi de la conquête des pleines bénédictions qui sont attachées au salut. Des pleines bénédictions communautaires, mais des pleines bénédictions aussi personnelles attachées au salut. Et nous trouvons là devant une espèce d'image, de parabole dans cette histoire que nous pouvons appliquer à notre propre histoire. Moïse prend la parole devant un peuple d'environ 2 millions de personnes, donc, qui sont partagés, je suppose, et on le sent au travers de ce récit, entre appréhension, crainte, il y a des ennemis à vaincre, et enthousiasme, le passé dans cette terre promise, tant désirée, où coule le lait et le miel, comme Dieu le leur avait dit. Le Seigneur, en tant que communauté, nous a aussi bénis. Notre communauté a grandi, il y a des âmes qui ont rejoint le salut en Jésus-Christ. Et au point où nous sommes, nous avons besoin de discerner, non pas forcément ce que nous voulons faire, mais ce que Dieu veut que notre Église fasse, ce que Dieu veut qu'elle soit. En ce début d'année, dans de nombreuses églises, on réunit des groupes de concertation, de discussion, de réflexion, et c'est probablement une belle chose, pour savoir ce que chacun veut que son Église soit. Je vous propose de voir le problème sous un autre angle. Qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons en tant qu'Église, en tant que communauté en marche? Ce que Dieu veut, je le veux. C'est ainsi que, j'espère, nous pourrons conclure cette prédication au travers de ces textes. Mais on va lire d'abord quelques versets un peu épars que j'ai sélectionnés dans le chapitre 4, mais ils sont assez emblématiques de tout ce que vous pourrez lire aussi, et je vous encourage à les lire dans les chapitres 5, 6 et 7 et 8 même qui suivent, avant qu'il y ait un rappel des détails de la loi, peut-être un peu plus difficile à lire et à aborder. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Je saute les versets 5, 3 et 4. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Je saute encore quelques versets, j'en viens au verset 32. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement? Et a-t-on jamais ouï chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entende la voix de Dieu parlant au milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaie de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux? Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur, que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Simplement ceci pour la lecture de la parole de Dieu. Et je voudrais que nous retenions un certain nombre d'impératifs qui ponctuent ce texte et l'ensemble de ces quelques chapitres que j'ai mentionnés jusqu'au chapitre 8. Le premier impératif, c'est écoute. Une communauté à l'écoute que Dieu veut. Et je vais le décliner sous quelques impératifs qui reprennent cette idée. La première, c'est maintenant, écoute. Maintenant, Israël, écoute. Le chapitre débute par cette injonction qui revient à plusieurs reprises au fil de ces chapitres. L'adverbe « maintenant » souligne l'urgence, l'actualité constamment renouvelée de cette nécessité d'être à l'écoute de Dieu. Et cette formule du chapitre 6, verset 4, que nous n'avons pas lu, est devenue traditionnellement une formule répétée dans toutes les synagogues pendant des siècles, matin et soir, que l'on appelle le schéma Israël, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. » Mais au-delà d'une formule devenue traditionnelle, je crois qu'il nous faut retenir que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Quelle nation a eu un jour un Dieu qui lui parle, qui s'adresse à elle? Dieu s'est rendu proche. C'est l'événement fondateur de la relation de Dieu avec l'humanité. Dieu a parlé au Père d'Israël et Dieu a continué à parler à ce peuple. Et Dieu continue à parler aujourd'hui à son peuple. Cela nous incite à nous interroger sur la routine dans laquelle nous sommes parfois dans notre lecture de la parole de Dieu, que nous trouvons sèche, qui ne nous parle plus, parce que nous-mêmes, notre cœur et notre oreille se sont desséchés à cette écoute. Écoute de la parole de Dieu, résumée parfois à simples quelques piqûres de rappel, comme dans les vaccins, hebdomadaires, voire même moins. Dieu nous parle et nous sommes appelés à l'écouter. C'est la première chose qui fonde ce discours de Moïse pour ce peuple qui est en marche vers la terre promise. Nous avons de multiples aides pratiques pour cela. Il y a sur la table de la littérature au fond là-bas des calendriers de lecture que nous éditons année après année pour que régulièrement nous puissions nous astreindre à une lecture complète de la parole de Dieu, une lecture vraiment exhaustive et régulière de la parole de Dieu. Prenez n'importe quel outil, mais Dieu parle. Écoute, maintenant écoute, parce qu'il y a urgence et il est actuel que nous puissions entendre de lui. La deuxième déclinaison de ce terme, maintenant Israël écoute, c'est apprends. Au-delà de simplement de l'oreille qui entend la parole de Dieu, qui touche le cœur peut-être, et c'est important, il y a aussi le cerveau que le Seigneur nous a donné, les pensées, la méditation, la rumination en quelque sorte de la parole de Dieu pour que vraiment elle puisse nous apporter tout ce qu'elle contient en substance, la réflexion, la mémorisation même de la parole de Dieu à laquelle les Juifs s'astreignaient, les jeunes Juifs, et ils continuent à le faire maintenant dans le judaïsme traditionnel. Le but étant que peu à peu les pensées de Dieu s'impriment dans nos pensées et qu'elles deviennent vraiment nos propres pensées, notre façon de réagir, de penser la vie, de faire des choix, d'organiser notre vie, que les pensées de Dieu deviennent vraiment les nôtres. L'offre d'enseignement, l'occasion d'apprendre dans l'Église est large. Que l'on commence avec les enfants, disait tout à l'heure David, plaisanté sur le mot « école », que l'on continue ensuite avec le groupe de jeunes, que l'on continue avec le groupe de quartier, les études bibliques, les séminaires que nous organisons. La semaine prochaine, il y en a un à Champfleury où nous serons richement, je crois, bénis par la prédication de Tom Blanchard. Les occasions sont multiples dans l'Église, le groupe de formation, etc., les réunions de dames. Le Seigneur nous donne ces occasions d'apprendre. Et en tant que responsable de l'Église, nous essayons de constamment avoir cette vocation que s'était donnée l'apôtre Paul à l'Église d'Éphèse, où en les quittant, il disait « Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu ». Nous essayons dans l'imperfection, avec des lacunes probablement, le déroulement des prédications avec des prédicateurs différents, la diversité. Nous espérons conduire à ce que nous puissions enseigner vraiment tout le conseil de Dieu. Et c'est vraiment notre volonté. Nous aspirons à ce que nous soyons une communauté attachée à la parole de Dieu et que nous ne souffrions pas d'un excès d'offres, peut-être, pour nous en abstenir de cette nécessité d'étudier aussi la parole de Dieu, de rentrer un peu plus loin que la simple écoute. Un grade au-dessus, je retiens ces deux autres impératifs que l'on retrouve au chapitre 5, verset 39, par exemple. Sache donc en ce jour, le 4, verset 39, pardon, sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur le fait de savoir, d'être assis sur des certitudes, sur des convictions, sur une foi qui est ferme, parce que nous savons et nous avons retenu ce que la parole de Dieu a à nous enseigner. C'est le produit des deux précédentes étapes, de l'écoute et de la tâche d'apprentissage de la parole de Dieu, d'étude de la parole de Dieu. Et il n'est pas étonnant que lorsque l'apôtre Paul, quelques années plus tard, écrit à l'église d'Éphèse, il puisse dire à cette église, à Éphèse, qu'ils ne sont plus des enfants, ils sont devenus mûrs dans la foi. Ils ne sont plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, avec une doctrine et une connaissance totalement fluctuante, variable, influençable par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. ils croissent à tous égards en celui qui est le chef Jésus-Christ. Que cela puisse constituer aussi un objectif pour notre communauté en marche. Être dans une saine doctrine et savoir où elle en est dans ce qu'elle croit et où chacun d'entre nous, nous savons que notre foi est affermie et solide et appuyée sur la parole de Dieu. Encore une déclinaison de « écoute, Israël, écoutez et ne pas mettre en pratique, ne pas observer n'est d'aucune utilité ». La parole de Dieu, Dieu ne vise pas l'intellectualisme, ne vise pas des cerveaux pleins de connaissances de la parole de Dieu. Il y en a plein dans des facultés de théologie dont sortent des individus qui parfois ne savent même plus s'ils croient encore en Dieu ou pas et qui ont des vies totalement déstructurées. Ce n'est pas tout, hein. Mais la parole de Dieu nous incite à mettre en pratique et observer. Et l'apôtre Jacques, en parlant de la parole de Dieu comme d'un miroir, il nous encourage à ne pas être mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie comment il était. L'incompatibilité complète entre l'objectif de la parole de Dieu que de nous renvoyer l'image de nous-mêmes, de nous renvoyer l'image de Dieu dans lequel nous croyons et nous avons confiance, en qui nous avons confiance pour que nous le retenions et que nous le mettions en pratique et non pas que aussitôt fermée cette parole, elle devienne lettre morte dans nos vies. Observe et mets en pratique. Encore une injonction concernant l'écoute de la parole de Dieu. N'ajoute rien, ne retranche rien. C'est intéressant de voir que la parole de Dieu, au début, dans le Pentateuque, contient cet avertissement et qu'elle se conclut par le même type d'avertissement à la fin du livre de l'Apocalypse. N'ajoute rien, n'enlève rien. Parce que la tentation de l'homme est de faire le tri. Ceci m'arrange, je prends. Ceci me dérange, je laisse. Et les sectes sont nombreuses, elles fleurissent, qui ont ajouté parfois à l'infini des dogmes, des traditions, des interprétations oiseuses, à commencer même simplement par l'Église catholique. C'est à la saine doctrine que l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, nous parle de rester attaché et qu'il enjoint les responsables des églises qu'il nomme de veiller à ce que cette doctrine soit maintenue saine et qu'il n'y soit pas ajouté ou retranché. Et enfin, la dernière injonction touchant à cette écoute de la parole de Dieu, c'est « enseigne ». Enseigne-la à tes enfants et aux enfants de tes enfants. C'est-à-dire, transmets-la cette parole. Comme l'apôtre Paul qui dit « ce que j'ai appris, il l'a retransmis à d'autres, ce que vous avez entendu de moi, transmettez-le à d'autres, qui l'enseigneront eux-mêmes à d'autres. » Et c'est ainsi que cette parole est parvenue jusqu'à nous dans une interprétation saine depuis l'Antiquité où elle a été rédigée jusqu'à maintenant et qu'elle reste un livre pertinent et d'actualité. Moïse a enseigné le peuple. Il a pris du temps dans ce long discours. À plusieurs reprises, il y est revenu. Il s'est fait relayer par les Lévites, les sacrificateurs aussi, pour enseigner la loi. Et tout au cours de l'histoire d'Israël, les Lévites et les sacrificateurs ont eu pour rôle d'enseigner cette loi de Dieu. Ils n'ont pas été toujours sans défaillance. Mais les pères y sont invités dans leur famille. Nos familles ont à être des lieux où règne la parole de Dieu, où elle est magnifiée, elle est mise en évidence et son autorité et respecter. C'est une charge qui est lourde pour nous tous dans nos propres familles. Mais c'est à ce prix que nous pouvons faire de notre communauté présente aujourd'hui et de celle de demain qui nous succédera, une communauté fidèle au Seigneur. Malheureusement, le peuple, après l'euphorie de la conquête, l'enthousiasme initial, très vite a oublié d'enseigner. Je crois que Jean-Marc, lorsqu'il a prêché sur l'introduction au livre des Juges récemment, y a fait allusion. Faute d'avoir enseigné, le peuple a sombré dans l'anarchie, la défaite, et il a été expulsé pour une bonne part. Il n'a pas pu jouir de cette terre qui lui était promise par le Seigneur. Plus rapidement, maintenant, quelques autres impératifs que l'on trouve dans ce texte. Une communauté qui est fidèle dans la durée. N'oublie pas, souviens-toi, rappelle-toi, interroge les temps anciens. Ce sont des expressions que l'on entend à de multiples reprises dans ce texte. interroge les temps anciens qui t'ont précédé. L'Église a à être une communauté de mémoire, porteuse d'une mémoire collective de ce que Dieu y a fait. Notre Église a été fondée, on a retrouvé les traces historiques les plus anciennes, 1917, peut-être les premiers rassemblements, constituée en association depuis 73 ans à peu près. Notre Dieu l'a bénie à de multiples reprises. Elle a connu des défaillances, des échecs, des crises. Le Seigneur l'a bénie. Et de pouvoir, dans une communauté intergénérationnelle de tous âges, profiter, et je me souviens, moi, quand j'étais jeune, étant né ici et grandi ici, tout en n'appartenant pas au Seigneur, un jour il a fallu que je me décide pour le Seigneur, je me souviens de ces récits faits par des anciens sur ce que Dieu avait fait dans leur propre vie ou dans la vie de l'Église. La mémoire des bénédictions d'hier, les faits positifs, le rappel de la providence de Dieu, de la fidélité de Dieu, alimentent la reconnaissance et la confiance que nous avons aujourd'hui dans notre Seigneur. C'est le carburant de notre foi que de savoir que dans le passé Dieu a été fidèle, donc aujourd'hui il sera aussi fidèle, parce que nous avons des faits précis à vous raconter à ce sujet-là. Les souvenirs des grâces passées sont aussi un garde-fou contre quelque chose qui sera la tentation très rapidement du peuple d'Israël, c'est l'orgueil et l'autosuffisance. Et au chapitre 8, à la fin de ce discours introductif, Moïse dit au peuple, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi, retour en arrière, mémoire, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force pour les acquérir. La mémoire du temps passé. Vouloir une Église diverse, intergénérationnelle, c'est faire se côtoyer, amener à se côtoyer dans les groupes de quartier, par exemple, des chrétiens qui ont de l'expérience, qui ont vécu de choses fortes avec le Seigneur, qui peuvent en parler, en témoigner, avec d'autres qui sont peut-être plus novices dans la foi. Et ça, c'est une richesse qui permet l'encouragement et l'affermissement dans la persévérance. La deuxième chose, du domaine de la fidélité dans la durée, c'est n'oublie pas l'alliance. Dieu a replacé à plusieurs reprises ce peuple devant le choix, tu me suis ou tu ne me suis pas? Qu'est-ce que tu décides? C'est une forme de reconversion, en quelque sorte, du peuple auquel il l'a invité. Et dans nos vies, je crois qu'il en est de même. Nous nous convertissons une fois, nous accédons à la justification, au baptême du Saint-Esprit dans notre vie pour vivre la communion avec le Seigneur. Mais nous avons besoin de rendez-vous que parfois le Seigneur nous fixe. Il crée des circonstances parfois, pas toujours agréables, ça a été mentionné dans une prière tout à l'heure, pour nous fixer ces rendez-vous et nous dire, est-ce que tu te reconvertis, est-ce que tu refais à nouveau un tour décisif pour me suivre ou non? Et à la fin du livre du Deutéronome, Moïse va conclure ce discours en disant au peuple, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Dieu nous fixe des rendez-vous où nous renouvelons notre alliance avec lui, alliance de fidélité, sachant que la sienne, elle ne défaille jamais. N'oublie pas l'alliance. Troisième domaine qui fait de cette communauté en marche, la communauté selon le désir de Dieu, une communauté qui est consciente de sa vocation. Dans Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 8, je vous les lis rapidement. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Il y a là quatre vérités. Nous sommes choisis de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes un peuple qui lui appartient en tant que communauté. Nous sommes un peuple et une nation sainte. L'apôtre Pierre va reprendre ce texte en disant que vous êtes une nation sainte. Nous sommes l'Église en tant que temple du Saint-Esprit. Nous sommes un peu en quelque sorte la continuité de ce peuple que Dieu s'est choisi et qui n'a pas marché dans la fidélité avant qu'un jour il revienne à son plan. Et une juste conscience de la hauteur de notre identité, choisie de Dieu, aimée de Dieu, peuple saint, peuple qui appartient à Dieu, devrait être le carburant de nos vies en direction de la sainteté, de la pureté. On n'a pas le temps d'en parler, mais dans la loi, Moïse va développer une notion qui s'appelle l'interdit, c'est-à-dire que le péché d'un membre du peuple est contaminant et discréditant pour l'ensemble du peuple. La sainteté devrait être, parce que nous sommes choisis de Dieu, aimés de Dieu, peuple saint, nation sainte, peuple qui lui appartient, devrait être notre objectif. Et ne pas nous dire, mais l'Église ne le sait pas, mais c'est ma vie privée, mais nous dire, je veux, parce que je suis conscient de cette vocation et de cette identité, je veux être saint devant Dieu, 24 heures sur 24, et tendre vers cette sainteté, qui d'entre nous pourrait prétendre l'être, mais tendre vers cette sainteté, comme Christ l'a parfaitement réalisé dans sa propre vie. Quatrième chose que je relève de ce texte, c'est dans le chapitre 6 surtout que nous le voyons. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Écoute toujours. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et quand il s'est agi pour Jésus-Christ, devant ses interrogateurs, ses contradicteurs, de résumer la loi au plus strict condensé, il a dit, voilà, dans cette phrase, il y a toute la loi qui est contenue. L'amour et l'attachement à notre Dieu. Notre Dieu nous est précieux. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait sortir de l'Égypte de notre passé. C'est lui qui nous fait vivre les bénédictions maintenant de notre appartenance à lui, en quelque sorte la terre promise, et il veut nous les faire vivre pleinement. Cette phrase, elle inclut l'affirmation de la souveraineté de Dieu. J'ai bien aimé les chants que David a choisis en début de ce culte qui affirmaient le règne de Dieu. Et il y a un verset que je voudrais simplement vous lire. Nous l'avons lu dans le chapitre 4, verset 39, le relire. « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'y en a point d'autre. » Il n'y en a point d'autre. Et Patrice, tout à l'heure dans sa prière, l'a rappelé dans les circonstances du monde actuel. Il est Dieu en bas sur la terre. Ne l'oublions pas, notre Dieu. Et Jésus rajoute à ce commandement qui résume toute la loi, il dit l'autre, qui est son corollaire. L'amour du prochain, aime ton prochain comme toi-même. Une communauté, parce qu'elle est attachée à son Dieu, qui est une communauté aimante les uns avec les autres. Je ne m'étends pas plus sur cette recommandation, le temps nous manque ce matin, mais que nous puissions réaliser ça pleinement en action, pas qu'en parole. Ah, j'aime mes frères et sœurs. Mais ok, parce que tu les aimes, qu'est-ce que tu fais pour eux quand il s'agit de faire ? La cinquième chose que je voudrais évoquer simplement dans ces textes de ces quelques chapitres de début de Deutéronome. Une communauté qui n'est pas simplement placée sous les fardeaux des enjeux, des objectifs, de l'obéissance, etc., mais une communauté qui est encouragée. Et au chapitre 3, verset 22, à cette communauté qui partage aussi une forme d'appréhension, comme je le disais tout à l'heure, avant d'entrer en terre promise, Dieu dit, ne craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Nous souvenir que dans tous nos enjeux, personnel ou communautaire, nous avons un Dieu qui est devant nous, qui marche devant et qui marche derrière, comme la nuée. Un Dieu qui combat lui-même pour nous tous. Sixièmement, une communauté conduite sainement. Cette prédication de Moïse est sa dernière. Dieu le lui a dit, il n'entrera pas sur la terre promise. Quelque chose qui nous paraît éminemment injuste. Il ne posera pas les pieds, il verra de loin. Deuxième chose, Dieu le lui a dit aussi, Moïse va mourir, va achever sa vie, il va passer un relais à Josué, et Dieu ne va pas lui dresser un mausolée, un monument que l'on visite, où les gens défilent, vous vous souvenez, le dirigeant nord-coréen, un peuple en pleurs qui vient devant le cadavre, etc., embaumé. Non, c'est Dieu qui va l'enterrer. Et on ne saura jamais où est sa sépulture. Il y a là tout un message de Dieu sur le leadership d'une communauté. Du côté de Moïse, c'est le message, cette communauté qui a marché, qui est sortie d'Égypte, qui est sortie victorieuse, tu n'en es pas propriétaire, tu n'as été que serviteur. Elle ne t'appartient pas. Tu vas la laisser entre les mains d'un autre, tranquillement. C'est moi, Dieu, qui suis le maître. Christ est le chef de l'Église. Ce ne sont pas vos anciens, vos responsables, vos pasteurs, appelez-les comme vous voulez, ce ne sont pas eux. L'Écriture dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. C'est en Dieu que nous devons nous confier. Et Dieu nous met en garde contre magnifier la personne de vos responsables. Il n'y a pas de place pour le culte de la personnalité. Ça, c'est le message que Dieu dit à la communauté d'Israël. Vous ne saurez pas où il est. Vous ne pourrez pas aller vous recueillir sur la tombe de Moïse. Parce que Dieu vous demande de regarder en avant. Il vous a béni de celui que l'Écriture qualifie comme le plus grand des prophètes, Moïse. Ok, maintenant, vous avez un autre leader, il a passé le relais. Un petit jeune piaffant d'impatience dans les starting blocks pour prendre le relais, Josué. 80 ans. Depuis 40 ans, il est en formation. Il a appris, dans un second rôle, à être fidèle. Il a appris à suivre l'exemple des aînés. Il a pris le temps. Vos anciens pensent à cette échéance aussi dans l'Église. Ne vous trompez pas. Et lorsque Dieu décidera du moment voulu, ils voudront eux aussi s'effacer comme des serviteurs qui ont servi la communauté. Mais que le Seigneur fasse se lever cette génération à venir. Ne vous confiez pas en eux, confiez-vous en Dieu. La dernière des choses que je voudrais mentionner, c'est ma forme de conclusion. Dans tout ce récit, Moïse alterne le singulier. Écoute Israël, en tant que communauté, c'est à toi, communauté, que je m'adresse. Et il alterne le pluriel, vous. Parce qu'une communauté, elle est faite de membres. L'état spirituel d'une communauté, l'Église, n'est que la somme de celui de chacun pris individuellement en son sein. L'Église que Dieu veut, puisque c'était le thème que je me suis donné pour autour de ce texte, que nous avons décliné sous quelques impératifs, mais il y aurait d'autres choses importantes à dire à ce sujet-là, vous les trouvez dans la parole de Dieu. L'Église que Dieu veut, c'est aussi ce que Dieu veut pour chacun de nous, à titre individuel. Que nous puissions être, comme nous l'avons évoqué, je le résume, à l'écoute de Dieu, dans toutes les dimensions de l'écoute. Que nous puissions être dans la fidélité à notre Seigneur, parce que dans le passé, il nous a bénis, il nous bénira dans l'avenir, et il construit notre reconnaissance et notre adoration, et notre connaissance de sa personne sur les expériences du passé aussi. Que nous soyons fidèles aussi dans l'alliance conclu avec lui. Peut-être le temps, aujourd'hui, cette semaine, début d'année scolaire, de prendre un nouvel engagement avec le Seigneur au titre personnel, pour la lecture de la parole, assister au temps d'enseignement dans l'Église, servir, se consacrer aux autres, aimer sa communauté. Que nous puissions être chacun d'entre nous aussi conscients de notre vocation et de notre identité en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes membres d'une nation sainte, nous avons été choisis et nous sommes aimés de Dieu. Que nous puissions être attachés à notre Dieu et vivre pleinement, se résumer, se concentrer de la loi, aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de notre âme et de notre pensée. Que nous puissions être encouragés par notre Seigneur qui dit marcher devant nous marcher derrière nous, que nous puissions être confiants en Dieu et non dans les hommes. Que le Seigneur nous aide à vivre cette année dans notre Église la réalité de ce qu'il veut. Que nous, responsables, que ceux qui prennent la parole ici, nous soyons tous conduits et orientés vers un même but, que de délivrer fidèlement la parole de Dieu, de veiller à ce que notre communauté reste fidèle, qu'elle reste droite devant notre Seigneur, et que chacun de nous, nous restions dans cette même attitude. Amen.